fruit l'initiative prise par les éditions du Seuil d'autoriser la BPI à mettre à disposition de ses lecteurs, pendant les 3 mois que va durer l'exposition, le site internet, encore expérimental, qu'elles ont développé pour Barthes et plus spécifiquement pour la consultation en ligne des archives sonores et manuscrits portant sur plusieurs séances du cours « Comment vivre ensemble ». En autorisant la BPI à expérimenter ce nouveau produit éditorial en grandeur réelle, Claude Cherki, à mes côtés, que je remercie très chaleureusement, nous comble. D'abord parce que, ce faisant, la BPI a une fois de plus, je le souligne au passage, je m'en voudrais de ne pas le faire, l'occasion d'être dans son rôle, qui est celui d'une institution culturelle nationale, qui ne cesse d'expérimenter et d'innover pour tout ce qui a trait à la lecture. Ensuite, parce qu'elle le fait avec un éditeur, et non des moindres. Bibliothécaires et éditeurs se sont trop souvent fait la guerre, et pour de mauvaises raisons, pour ne pas saluer le geste du Seuil et de son président directeur général, Claude Cherki. Enfin, parce que la démarche initiée par le Seuil, à laquelle nous allons nous intéresser ce soir, est véritablement d'intérêt général, y compris, bien sûr, par les questions qu'elle pose. Il ne s'agit rien moins, en effet, que d'étendre le territoire de la lecture au-delà du texte, au vaste domaine de l'oral et du son. Cette hypothèse de travail ouvre des perspectives extrêmement intéressantes. Depuis un siècle, se sont accumulées en effet dans nos institutions de très riches archives sonores qui sont pour la plupart très peu exploitées, en dehors, sauf par les médias de flux, la radio et la télévision, tout simplement parce qu'on ne savait pas jusqu'à présent répondre à la question « qu'est-ce que lire un flux temporel qui, par définition, se dérobe toujours à l'instant même où on croit le saisir ?» La question vaut pour l'image animée et Barthes, bien avant qu'on ne parle de numérisation, c'est-à-dire de codification, en avait eu la géniale intuition. Il écrivait dans ses dialogues rassemblés dans ce volume édité par le Seuil, Le grain de la voix, une expression analogique et continue, on ne sait pas par quel bout la prendre pour y introduire, y amorcer une analyse, par exemple, comment découper sémantiquement, comment faire varier le sens d'un film, d'un fragment de film. Ce qui vaut pour l'image vaut différemment pour le son. La parole est évidemment déjà un système symbolique constitué d'un nombre restreint d'unités codifiées qui se prête à de riches combinatoires. Mais pour autant, le langage n'est pas l'écrit. Or, ce que nous avons pris l'habitude de lire, c'est de l'écrit. C'est par une sorte d'abus de langage que l'on parle de lecture des différents médias dans une bibliothèque, car jusqu'à présent, les frontières sont bel et bien restées étanches. Je peux, sur mon écran d'ordinateur, corréler deux textes très éloignés, dans tous les sens du terme, très éloignés l'un de l'autre, et créer des liens hypertextes entre les deux. Je ne savais pas jusqu'à présent indexer de l'oral, un fragment de discours pour lui corréler un autre contenu. Barthes écrivait en guise de préface à la transcription de ses dialogues sur France Culture, « La parole, l'écrit et l'écriture engagent chaque fois un sujet séparé et le lecteur, l'auditeur, doivent suivre ce sujet divisé, différent, selon qu'il parle, transcrit ou énonce. » La Bibliothèque nationale de France, ici représentée par Jean-Didier Wagner, un des pères de Gallica, avait réfléchi dans sa phase de préfiguration à un nouveau type de machine à lire, le poste de lecture assisté par ordinateur multimédia, dont un des objectifs était précisément de réunifier le lecteur. Le projet, il y a une dizaine d'années, était visionnaire, mais supposait des moyens considérables et, pour cette raison, entre autres, a été abandonné. L'hypermédia que nous propose aujourd'hui Le Seuil est bien une réponse à des questions que nous nous posions alors. C'est pourquoi, au-delà de ce qu'il apporte à l'étude et à la connaissance de Barthes, il présente un intérêt considérable pour le développement des pratiques de lecture, pour le développement des pratiques heuristiques en général et dans les bibliothèques et archives en particulier. Comme je le disais, cette entreprise soulève de multiples questions que je vais poser à chacun de nos invités, ensuite de quoi vous aurez la parole pour, à votre tour, poser des questions. Mais on va commencer par une présentation de ce dont je viens de parler, et c'est Valérie Granger, chef de produit multimédia aux éditions du Seuil, c'est ça?
Oui.
Bon. Qui va nous faire cette présentation.
Bon, en préambule, je vais expliquer un petit peu l'origine du développement. Avant toute chose, c'est une collaboration avec la société Quam qui a apporté une expertise technologique sur ce projet, qui nous a mis à disposition des outils qui nous ont permis justement de mener à terme cette réflexion que vous allez voir. Et donc, je tenais absolument à les remercier avant de commencer. Donc on va commencer par, comme vous le voyez là, on est sur la page d'accueil, vous avez quatre accès qui permettent un peu de, je dirais, consécuité les menus qui sont présents dans la page suivante. Ça permet des accès rapides sur la rubrique auteur ou directement sur les modes d'accès ou sur une note aussi sur l'éditeur. Alors on va pouvoir voir un peu ces différentes rubriques. Mais l'idée déjà, c'est d'avoir une entrée dans un espace public parce que le site se divise en deux types d'espaces. Un espace public dans lequel on présente un petit peu la démarche de Roland Barthes, à la fois sa carrière par rapport, sa collaboration, excusez-moi, avec les éditions du Seuil tout au long de son œuvre. Et puis, on présente également toutes les fonctionnalités technologiques de l'outil. Et ensuite, il y a le deuxième espace qui est beaucoup plus privatif, qui en fait correspond à l'offre qui sera faite aux universités, qui est l'espace abonné, où vous avez là toutes les fonctionnalités de recherche et de traitement du corpus qui est présent sur ce site. Donc, je vais commencer par la présentation. Donc, vous voyez ici qu'on explique un petit peu l'origine de ce site. On explique que ce sont les cours au Collège de France qui ont été faits de 1976 à 1980. Alors la première partie qui est traitée, c'est le cours « Comment vivre ensemble ». On a choisi les deux séances inaugurales et la dernière séance pour une raison très simple, c'est qu'il nous fallait, pour expérimenter les fonctionnalités, un corpus suffisant au niveau des concepts et au niveau des thèmes et des auteurs qui sont cités, qui soient présents dans ce corpus, qui est un maillage suffisant pour permettre d'utiliser l'outil de recherche. Donc on a pris les réseaux les plus denses, c'est-à-dire l'introduction et la conclusion. Alors ensuite, vous avez donc ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est-à-dire que vous avez l'objet du site, donc on explique exactement ce principe d'espace. On a également les fonctionnalités, donc vous voyez qu'il y a une fonction de recherche qui correspond une recherche permettant l'indexation de n'importe quel mot ou expression dans les textes issus des transcriptions des cours ou également des manuscrits ou bien de la scription des cours oraux, tout aussi bien aussi que le son. Une fonction de consultation des séances de cours, donc on peut passer pour chaque séquence du texte à la transcription, à la visualisation du manuscrit d'origine ou encore à l'écoute du fond sonore. Et puis une fonction de navigation contextuelle qui permet, suivant les auteurs cités ou les concepts abordés, d'aborder les séquences des cours qui sont concernées. Et la dernière fonction, naturellement, la fonction d'écoute, puisque vous avez le fond sonore qui est présent. Donc, ensuite, vous voyez que les trois grands axes, donc vous avez la présentation, l'auteur, vous avez une biographie, une bibliographie. Donc voilà, vous avez une biographie en plusieurs pages qui explique un petit peu le trajet de Roland Barthes. Vous avez la bibliographie qui a été actualisée, qui se présente sur plusieurs écrans. Vous avez ensuite les morceaux choisis. Donc les morceaux choisis, c'est justement une présentation de ce principe où vous avez du principe d'indexation, c'est-à-dire qu'on voit ici la liste des concepts pour un extrait qui est l'extrait numéro 2 de la séance du 12 janvier 1977. Et cela vous permet de voir un peu comment la chose se présente. Donc vous voyez ici que vous avez le concept correspondant, la liste des concepts correspondant à l'extrait qui est traité. et vous avez en bas les formes, enfin les médias qui correspondent à cet extrait. Donc on voit qu'on a un extrait sonore. S'il veut bien, si le plugin est activé, on va voir. Bon, je continue. Voilà, c'est parti. Eh bien non. Sympathique.
Bon, donc je voulais dire qu'au moment de commencer ce nouveau cours, je voudrais penser à une opposition nietzschéenne qui a été bien mise en valeur et bien mise au jour par Deleuze dans son livre sur Nietzsche. C'est l'opposition entre la méthode et la culture. Dans la perspective nietzschéenne, je le rappelle, la méthode suppose ce que Deleuze appelle une bonne volonté de penseur.
Alors si je reviens sur l'extrait, vous voyez que ce qu'on parle, quand on parle de scription, vous avez vraiment tous les termes qui sont employés par Roland Barthes. C'est-à-dire c'est une scription rigoureuse, on a également les répétitions. Parfois, quand vous avez des mots qui sont fragmentés, on le transcrit également, de même que les silences avec des signes typographiques spécifiques, ce qui est très différent, en fait, de la note, enfin, de la partie transcription qui correspond à la transcription du manuscrit. Alors, pour parler du manuscrit, on a ici le fac-similé du manuscrit, qui vous permet vraiment, en mode image, avec une définition assez suffisante, qui permet quand même de voir la texture du papier, et qui vous permet surtout de voir les écarts qu'il y a entre l'oralité et l'écrit. C'est-à-dire souvent, on s'est aperçu que Roland Barthes faisait des allers-retours entre ce qu'il a noté au départ et ce qu'il disait. Et puis ensuite, si vous prenez un autre extrait, parce que là, j'ai pris un extrait qui correspondait à la transcription sonore, vous pouvez avoir également un extrait qui correspond directement. Bon, là, on n'a que des transcriptions dans la partie publique, parce qu'en fait, on veut montrer les médias les plus riches à ce niveau-là. Mais si je vais dans la partie abonnés, ben, je pourrais vous montrer, par exemple, des extraits qui correspondent notamment aux manuscrits. Donc, alors, pour parler de la partie abonnés, donc là, j'ai accédé. Vous voyez qu'on différencie avec des codes de couleur, justement, l'espace de travail de l'espace public. Vous avez plusieurs fonctionnalités typiques. Premièrement, la gestion du compte de l'internaute. Donc, vous voyez qu'ici, il y a mon identifiant, mon email. Je peux changer mon mode de passe. On voit aussi ma consultation en ligne. Alors pour l'instant, ce sont des montants fictifs. Vous avez également un forum. Le forum, c'est très simple. Vous ajoutez une salle, c'est le système des mailing lists. C'est-à-dire que vous mettez un sujet, un texte, et puis ensuite, il sera mis en ligne. Tout cela sera modéré et on pourra débattre en ligne de différents thèmes qui seront traités dans le site. Et puis, vous avez également un quiz qui est destiné aux étudiants. Un questionnaire qui permet de tester un peu, c'est un outil d'auto-évaluation par rapport à Roland Barthes. Vous avez ici les questions qui sont rédigées et dans la page suivante, les réponses. Alors ce qu'il faut savoir, ça a été fait sur le mode du questionnaire parce que le QCM n'est pas franchement très adapté au contenu de Barthes. Et puis là, je vais rentrer vraiment dans la partie qui correspond justement à ces outils de recherche. Donc comme on l'a dit tout à l'heure, on a une entrée par concept. Alors les concepts, vous voyez, sont catégorisés par auteur et par thème. Il faut savoir que ces auteurs et ces thèmes sont qualifiés par Roland Barthes lui-même dans ses notes. Et vous avez un accès direct. C'est-à-dire que ça vous évite d'utiliser le moteur de recherche. Vous savez que, par exemple, dans ce corpus sont présents les auteurs Deleuze, Freud, Nietzsche, Thomas Mann ou Zola, de même que les thèmes Ami, Amour, Athos, etc. Donc, vous pouvez choisir, par exemple, Nietzsche. Et vous avez toutes les dates de séance qui apparaissent. Avec justement la qualification des formes, vous avez la forme écrite et la transcription. Si je prends la forme écrite, ce que je n'ai pas pu vous montrer tout à l'heure dans l'espace public, parce qu'on a choisi de valoriser essentiellement le son, vous avez, comme je l'ai dit tout à l'heure, donc la qualification de l'extrait. Donc on sait que c'est la séance du 4 mai. L'origine, c'est la forme écrite. On a le numéro de l'extrait et la date. On sait aussi que pour le concept Nietzsche, on a 9 documents. Là, on affiche le premier document sur 9, c'est mentionné. Et vous avez le dictionnaire conceptuel de cet extrait qui apparaît ici. Et on voit que Nietzsche est mentionné à la fois dans les concepts et dans le texte. Donc, vous pouvez aller voir le facsimilé, toujours. Et là, c'est vraiment la transcription de ce que vous pouvez avoir sur le facsimilé qui est traduit dans l'extrait. On voit que c'est le point 4. Il y a les notes également de bas de page qui sont présentes. Et puis, vous avez le son, comme tout à l'heure. Cette fois, je vais attendre que ça se charge. Voilà. Et là, justement, vous pourrez voir les écarts qu'il y a entre l'oralité et le manuscrit. Alors, c'est un petit peu lent, on va attendre. On va continuer.
Quatrième principe objectif, cette distance critique entre les membres de la petite communauté idiorythmique, c'est une distance qui est douée d'une valeur, au sens fort du terme. Alors, cette valeur ne doit pas être prise dans la perspective mesquine, n'est-ce pas, d'un simple quant à soi. La distance critique n'essaye pas seulement de préserver un petit quant à soi dans le vivre ensemble.
Donc là, vous avez pu voir dans les premières phrases, déjà les différences entre ce que peut dire Roland Barthes et ce qui est écrit, notamment la première phase qui est beaucoup plus développée. Et si vous prenez la scription, l'extrait sonore que je vous ai montré tout à l'heure, on a la scription littérale de ce qui est dit. C'est la grande différence. Le principe, c'est de pouvoir opposer justement les différentes formes et de voir sur les mêmes thèmes ou les mêmes concepts les écarts qu'il peut avoir entre ces différents extraits. Alors, si je reviens dans la recherche, c'est-à-dire que là, on a vu l'entrée par concept, mais vous pouvez voir aussi par une recherche, lancer une recherche qui vous est propre. Problème de souris. Alors, est-ce qu'elle veut bien cliquer ? Bon. Je vais revenir. Voilà. Donc vous voyez que sur l'outil de recherche, vous avez une indexation en full texte, c'est-à-dire que vous pouvez taper un terme, on fera une recherche full texte sur la totalité du corpus, ou par concept. Alors ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si vous choisissez les concepts, vous n'allez pas faire une recherche sur la totalité du texte, mais on va seulement scanner les petits dictionnaires que j'ai pu vous présenter tout à l'heure. Donc par exemple, si je tape ici « idiorythmie », peut-être commencer par le concept, parce que je sais qu'il n'est pas présent, pour vous montrer la différence. Donc voilà le résultat de la recherche, c'est que je n'ai pas ce concept dans le corpus traité, donc je vais faire une nouvelle recherche. Donc là aussi, vous pouvez choisir avant une date de séance ou une date de séance ou après la date de séance. Donc c'est par date, vous voyez, le avant le après le. Vous pouvez mettre aussi le numéro de document si vous le connaissez, ou vous pouvez choisir une forme écrite ou une transcription. Donc là, je vais rester sur la totalité du corpus. Voilà, et là je m'aperçois qu'effectivement, Idiorythmie est présent dans les formes écrites et dans les textes, et pas dans les concepts. Vous voyez, si je regarde les dictionnaires qui sont liés à ces extraits, il n'est pas présent. Donc je peux choisir les deux extraits. Voilà. Donc vous voyez ici l'extrait qui est concerné. Donc on voit que c'est un tableau. Vous pouvez aller voir l'image, c'est-à-dire le facsimilé qui lui correspond. Et vous retrouvez le tableau en bas de page, vous voyez. Voilà. Alors, si je mets le son.
Alors, je voudrais à ce sujet, une fois pour toutes, si vous le permettez, parce que j'ai peur ensuite que nous ayons à manier ces notions sans très bien savoir à quels événements elles se rapportent. Je voudrais peut-être finir là-dessus, vous donner non pas un tableau, mais disons, si vous le permettez, imprimer tout de même quelques dates, quelques repères chronologiques dans votre esprit. Moi j'ai fait ça sous forme d'un tableau, mais enfin, faites ça comme vous voulez.
Alors, vous voyez, vous pouvez entendre les bruits de craie sur le tableau, justement. Et on a essayé de privilégier au niveau du traitement du son, justement, l'ambiance qu'il pouvait avoir au Collège de France. De même qu'au niveau des manuscrits, on a toujours essayé de respecter la qualité des papiers. C'est-à-dire, là, je ne sais pas si avec le vidéoprojecteur, c'est très visible, mais vous verrez sur les bornes de la BPI. C'est-à-dire qu'on voit vraiment la couleur, y compris quand le papier est un peu dégradé à cause des variations, enfin, de variations de pH, vous voyez des zones un peu jaunies ou des griffures, elles sont très présentes. On essaie vraiment, au travers de cet outil, de donner une proximité très forte avec que ce soit le son, c'est-à-dire que le son, ce n'est pas la voix de Roland Barthes seul, on aurait pu l'isoler avec les procédés numériques, mais on garde les bruits ambiants, c'est-à-dire on entend vraiment Roland Barthes expliquer les choses, de même qu'on le sent bouger, parce que vous pouvez voir qu'au niveau d'acoustique, le son varie parce qu'il tourne dos au micro, et de la même façon que vous entendez les bruits de craie, ce genre de petits facteurs très anecdotiques, je veux dire, sur le plan scientifique, mais d'un autre côté, crée au niveau émotionnel quelque chose de plus fort et quelque chose de plus qui rend le contenu beaucoup plus proche. Alors pour revenir, pour terminer un petit peu sur la démonstration, après j'expliquerai un petit peu les outils qui ont été utilisés, on a aussi la fonction historique. Alors, la fonction historique est très importante parce qu'elle permet... Alors, je m'aperçois qu'à chaque fois que je cherche du son, j'ai un problème avec mon navigateur. Donc, je vais devoir le quitter et le relancer. Voilà. Voilà mon historique. Donc, vous pouvez accéder aux recherches dans les dernières 24 heures, une semaine d'historique, un mois d'historique ou trois mois d'historique. Alors, l'avantage de cette fonctionnalité, c'est tout simplement, si vous voulez faire deux fois la même recherche, vous consultez votre historique, vous le cochez et vous allez directement voir ce qu'il en est. Donc, par exemple, je m'aperçois que le 25 novembre, à 10h48, j'ai fait une recherche sur Deleuze, donc je vais y aller. Et je retrouve les documents que j'avais indexés à ce moment-là. Alors, pour expliquer un petit peu cette plateforme, elle a été pensée, elle pourrait paraître comme ça extrêmement propriétaire par rapport à l'auteur, parce qu'en fait, vous apercevez qu'on navigue avec des concepts qui sont spécifiques à Roland Barthes, mais le système a été pensé pour être très ouvert, c'est-à-dire que c'est une plateforme qui est dédiée aux auteurs en général, c'est-à-dire qu'on pourrait aussi bien traiter un autre auteur de la même façon, que ce soit du son, du visuel ou de l'écrit, tout en utilisant les concepts propres ou les thèmes propres à cet auteur. C'est un système extrêmement ouvert. Alors, il y a tout un travail pour parler de ces dictionnaires conceptuels, parce que vous voyez des listes de mots qui correspondent à un concept, qui sont relatifs à un extrait. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a tout un travail qui est effectué par Claude Cos, qui vous expliquera ensuite, qui sont justement ce traitement qu'il y a entre le corpus et le fait d'isoler ces concepts, et après ça permet de faire cette indexation. S'il y a une recherche intelligente qui est faite, elle est faite parce qu'il y a un traitement en amont, je dirais, d'édition qui correspond justement à pouvoir découper de façon intelligente le corpus, et il n'est pas fait de façon arbitraire, on vous expliquera pourquoi, sur de quelle façon est fait cet échantillonnage, de même que les concepts sont isolés aussi, pas du tout de façon arbitraire, ça correspond à des démarches très précises qui sont liées à un auteur spécifique. Donc voilà, je terminerai là-dessus.
Bien, merci. Avant de passer la parole à Claude Coste, je voudrais tout de suite demander à Jean-Didier Wagner, grand lecteur devant l'Éternel, si il a comme ça à chaud une réaction, une question à poser sur les fonctionnalités.
Un petit peu technique, c'est saisi en XML, je pense, derrière.
Oui, c'est ça. Ouais.
Et d'autre part, au niveau, Gérald Grimmer a rappelé tout à l'heure les rêves de machine à lire des années 1992. Mmh. Et est-ce qu'on peut faire rentrer, par exemple, des nouveaux concepts à travers la pratique de ce site? Est-ce que quelqu'un peut faire rentrer de nouveaux concepts, de nouveaux dans les listes qui sont
pas
présentées?
Pas tout à fait. Ce qui peut se passer, c'est ce que j'expliquais à l'instant sur le traitement du corpus. C'est-à-dire que c'est l'éditeur qui isole ses concepts. Si tout le monde entre n'importe quel concept, tout a valeur ajoutée de ce projet disparaît. Mmh. C'est-à-dire que l'idée, c'est de respecter la démarche de Roland Barthes, c'est de traiter le contenu selon les entrées qui ont été définies par Roland Barthes lui-même.
D'accord.
C'est-à-dire que Roland Barthes peut générer différents médias, mais il y avait des liens par des concepts très précis, des auteurs très précis qu'il établissait, et c'est ces liens qu'on respecte et qu'on restitue par ce système. Le but, c'est pas que chacun invente sa liste conceptuelle de Roland Barthes, parce que sinon...
Il peut la mettre dans les historiques, c'est réglé de cette famille. Voilà. La deuxième chose, c'était quelque chose qui était assez pratiqué sur Internet. Bon, il y a un site qui est très intéressant là-dessus, c'est le site L'Autre-Amont, animé par Henri Béat, c'est-à-dire l'hypertextualisation complète de tout le texte de Barthes, c'est-à-dire on va cliquer sur le mot différence et on va voir toutes les occurrences de différence dans les cours. Est-ce que vous vous orienterez à un moment vers cette solution lorsque tout sera en ligne, quoi.
Ah, pardon, j'ai oublié d'expliquer cela aussi. On va pas s'imiter aux 3 heures. Donc l'idée, c'est de... Grave erreur de ma part. Dans vos missions, oui. L'idée, c'est d'abord, on a commencé avec le cours Comment vivre ensemble, mais l'objectif, c'est évidemment de mettre la totalité des cours au Collège de France, et plus tard, pourquoi pas, la totalité des œuvres de Roland Barthes. L'idée, c'est vraiment de rentrer dans l'exhaustivité d'un auteur, avec la totalité de sa production. Parce que vous voyez qu'on peut traiter aussi bien, je dirais, des facsimilés qu'un fond sonore, mais surtout le texte, parce qu'avant tout, ça reste un outil textuel. Et c'est cet outil textuel qui nous permet d'indexer de façon concomitante des fragments sonores, des manuscrits par rapport à un extrait donné, par rapport à un concept donné. Et ça ouvre énormément de perspectives.
Bien. Alors, Claude Coste, professeur à l'Université de Caen, qui a publié plusieurs ouvrages sur Barthes, dont Barthes moraliste. Comment avez-vous travaillé? Combien de temps ça a pris? Quels outils avez-vous utilisés? J'ai un peu le sentiment que derrière tout ça, il y a un véritable travail de bénédictin.
C'est un cours sur
avec
les
des
moines,
fiches papier.
C'est un cours sur les moines. Le premier cours porte pas mal sur la vie, l'idiorythmie au sens propre, qui permet de décrire ces moines qui sont à la fois indépendants d'un monastère. Et nous étions un petit peu dans cette situation-là, parce qu'il faut voir que cette édition de cours, je ne suis qu'un des éléments. Hein. Il s'agit d'un vaste ensemble dirigé par Éric Marty, qui est l'éditeur des œuvres complètes. Je me suis chargé d'éditer plus particulièrement le premier cours. Thomas Clair édite pour l'instant dans la version livre le second cours. Nathalie Léger est en train de préparer le troisième cours. Donc c'est vraiment un monastère complet. Mais nous étions aussi un peu indépendants dans nos cellules, puisque on a aussi chacun travaillé sur notre cours en particulier. Ce que je voudrais, c'est la démonstration était vraiment très claire et il y a beaucoup de choses qui vont d'elles-mêmes. Hein. On s'aperçoit quel est le support, on s'aperçoit comment c'est découpé. Ce que je voudrais peut-être, c'est commencer par remonter un petit peu en avant. C'est que le choix de Barthes, on n'a pas besoin de le justifier, vous le disiez tout à l'heure, hein, c'est un des plus grands écrivains, tout simplement, la seconde moitié du XXe siècle. Et c'est, je dirais, celui qui a, parmi les auteurs de sciences humaines, parmi ceux qui ont le mieux vieilli et qui n'a jamais été pris dans une polémique très, très durable. Son purgatoire était très court. Et on s'aperçoit, par exemple, à voir la façon dont les libraires ont accueilli les œuvres complètes, les cours dans la version livre, à quel point ces ouvrages sont mis en valeur, à quel point il y a une grande tendresse, je dirais même, qui reste à l'égard de Barthes. Et il y a une nouvelle génération, me semble-t-il, qui prend le relais. Bon, je suis universitaire, j'ai des étudiants, j'ai dirigé des travaux sur Barthes, des mémoires de maîtrise. Et il y a une curiosité à l'égard de Barthes, une curiosité également dans d'autres pays que la France. Il y a dans cette salle un nombre de spécialistes de Barthes qui viennent de l'autre côté de la Manche et qui auraient peut-être un nombre d'expériences à nous faire partager en ce qui concerne la lecture de Barthes en Europe. Alors, le choix de Barthes ne se justifie pas, je dirais. Hein. Alors, ce qui peut justifier ce travail-là en ce qui concerne les cours au Collège de France, c'est qu'il y avait un véritable défi à relever. Que faire de notes manuscrites? Parce qu'il va de soi que ces notes n'étaient pas du tout destinées à la publication, ce sont les notes d'un enseignant qu'il a sur sa table. Vous avez vu que Barthes lisait ses notes avec attention, mais il y a des ellipses, des verbes, il y a des flèches, donc il rétablissait une version en français courant, et le cours qu'il avait sous ses notes de cours n'était pas destiné à la publication. Alors que faire de notes de cours quand elles ne sont pas destinées à la publication? Ça pose un problème intellectuel, ça pose d'abord un problème éthique, au sens large. Hein. Il y a une possibilité qui a été faite pour d'autres écrivains, c'est de rédiger les cours, rédiger les notes, rajouter les verbes être là où il en manque. On aurait pu le faire. Hein. Ça a été fait pour Foucault, c'est une entreprise qui tient la route. Bon, on n'a pas du tout, c'est Éric Marty hein, qui chapeautait l'ensemble, qui n'a pas du tout, et on était tous d'accord là-dessus, on n'a pas voulu du tout rédiger les cours de Barthes. Bon. Pour des raisons qui sont liées à une fidélité, on ne se substitue pas intellectuellement au travail de l'écrivain et du professeur en l'occurrence. Mais en même temps, nous ne pouvions pas tomber dans une espèce de naïveté qui aurait consisté à dire « nous allons être dans une fidélité parfaite ». On sait bien que tout travail d'édition est un travail d'interprétation. Donc ce qu'il faut, c'est faire que l'édition soit la plus respectueuse, fidèle, la plus respectueuse, la plus fidèle possible. Bon, un petit point, mais il est capital. Nous n'avons absolument rien rédigé, simplement, vous le verrez, on a rédigé malgré tout les abréviations. Il est question très souvent de Robinson Crusoe, qui est noté RC dans le manuscrit. Dans la version imprimée, le livre, on a rédigé Robinson Crusoe RTP, est devenu systématiquement à la recherche du temps perdu, etc. Bon, ça, c'est une liberté qu'on a prise. Enfin, elle est quand même très, très minime. En revanche, ce qui est, ou par contre, c'est vous qui verrez, ce qui est une grande différence, c'est que le texte dans le livre, hein, dans la version imprimée, a été reponctué. J'ai reponctué largement le texte du Comment vivre ensemble, parce que le texte était illisible autrement. Alors, j'ai autant que possible respecté la ponctuation de Barthes, je m'en suis inspiré, mais il y avait souvent des séries de deux points, dans trois mots, deux points, à nouveau trois mots, deux points, comme des enchaînements logiques qui ne sont pas explicites et qui étaient en quelque sorte notés par le professeur par les deux points. Le principe qu'on s'est donné, Éric Marty, Thomas Clair, Nathalie Léger et moi, ça a été de reconstituer une phrase toutes les fois que c'était possible. Bon. Mais en même temps, nous n'avons jamais modifié le sens littéral. Mais on a modifié quelque chose du texte puisqu'on a reponctué. C'était nécessaire. Hein. Si vous avez eu entre les mains et le manuscrit et le livre imprimé, vous verrez que c'était absolument nécessaire. Alors, ce que permet l'édition que nous a présentée Valérie Brancher, c'est, je dirais, une plus grande fidélité encore parce que nous avons multiplié les supports. Il y a le livre qui est en librairie actuellement. Un CD MP3, parce qu'il faut faire attention, ce n'est pas quelque chose qu'on pourra écouter sur son Walkman en se promenant, il faudra un ordinateur, et il y a ce produit qui est encore un prototype et qui est en mouvement. Par exemple, je crois que j'ai dû laisser passer une bourde parce que Idiorhythmie s'écrit avec deux R, hein, et là il n'y en avait qu'un. Alors bon, c'est moi qui ai du mal de transcrire, on remettra les deux R, hein, et Barthes s'explique longuement sur les deux R. Donc, la fidélité, ça a été aussi de multiplier les supports. Et dans le cas de ce produit-là, notre travail éditorial de transcription ou de scription, on va le livrer au public. Dans la version livre, on est obligé de me faire confiance, ou alors d'aller voir les manuscrits à l'IMEC. Là, on verra le texte que j'ai transcrit et reponctué, et on verra aussi le manuscrit de Barthes. De certaine manière, il y a une plus grande lisibilité, puis ça peut être aussi une forme de fidélité plus grande encore. Donc voilà, grosso modo, hein, les principes éditoriaux qui ont présidé à l'ensemble de l'élaboration des supports. Hein. Maintenant, pour ce qui est de ce travail même, Valérie Granchet parlait du découpage. Alors, nous avons, je dis nous parce que c'est donc des étudiants de l'Université de Caen et moi-même, nous avons, c'est un travail de bénédictin, vous le disiez, hein, découpé le texte, c'est moi qui ai découpé le texte, par segment, par fragment, ça fera plus cartésien, mais ce découpage n'est pas arbitraire, vous l'imaginez, je n'ai pas découpé toutes les 10 lignes. En fait, il n'est pas très contestable, parce que ce que j'ai découpé, en fait, ce sont les grandes structures du texte, Barthes, mais petit 1, petit 2, grand A, grand... Bon, j'ai tenu compte de ce découpage, qui est un découpage qui organisait le texte d'une façon... les notes de cours de façon très claire. Bon, mais là encore, ça peut être discuté. Parce qu'il y a des moments, vous avez entendu l'opposition que fait Barthes entre méthode et culture. Il traite d'abord la méthode et ensuite la culture. Fallait-il les séparer ou ne faire qu'un seul fragment? Bon, j'ai choisi, après avoir beaucoup hésité, de ne faire qu'un seul fragment. Donc, voyez-vous, il y a un choix aussi qui est légèrement arbitraire, de façon très très légère, et la comparaison entre le texte en continu et le texte fragmenté permettra à l'utilisateur de se faire son idée personnelle. Le choix des concepts aussi s'imposer de lui-même. Hein. Les noms propres, ça ne pose pas de problème. C'est comme un index nominum. Bon, c'est très simple, il suffit de mettre tous les noms propres possibles. Pour ce qui est des choix de concepts des noms communs, bon, c'est plus délicat. Et j'ai fait le choix de prendre le choix le plus large possible. Hein, le choix le plus large possible, c'est-à-dire ne pas contraindre le lecteur par un choix qui serait trop personnel. Le choix est plus large que l'index de la version imprimée. Hein, je crois qu'on peut noter cela. Donc, une fois que j'ai fait ce découpage, dont j'ai pris la responsabilité, l'équipe que j'avais formée avec les étudiants a codé de façon très minutieuse, là encore, chaque fragment. C'était un travail vraiment de bénédictin, un petit peu ennuyeux, mais enfin, ça faisait partie des efforts à produire. Et nous avons donc livré l'ensemble hein, du produit qui a pu être comme ça consulté et qui peut être consulté par l'utilisateur. Trois séances, Valérie Granchet vous a dit que donc les deux séances d'introduction qui présentent l'ensemble du cours et la dernière séance qui est la conclusion. Barthes répète beaucoup en conclusion ce qu'il a dit en introduction, il le reprend, il le module un peu et malgré cela nous avons choisi ces séances parce qu'elles permettent vraiment, je répète ce que disait Valérie Granchet, une grande cohérence des concepts et donc on peut circuler facilement, il y a une sorte de grande cohérence dans l'ensemble de ces trois cours. La dernière séance n'a été enregistrée qu'à moitié. Donc, le cours s'arrête brutalement. Si quelqu'un a gardé, par hasard, la dernière disquette, hein, la disquette manquante, hein, on pourrait imaginer un roman de Pérec, peut-être, où on chercherait la dernière disquette hein, qui correspondrait à la dernière demi-heure de cours qui est perdue pour l'instant. Elle est peut-être dans une bibliothèque bénédictine, un roman d'Umberto Eco, qui sait. Hein.
C'est pas impossible. Ouais. Il y a quelque chose que j'ai pas tout à fait compris, qui fait écho, d'ailleurs, à une autre action récente du Seuil, son partenariat avec 00heure.com pour la mise en ligne d'ouvrages donnant lieu éventuellement à un forum et à des débats. On le comprend pour un ouvrage sur le sujet de l'euthanasie. Là, en ce qui concerne le site Barthes, j'ai pas très bien compris ce que vous vouliez faire. Vous avez évoqué la possibilité
oui.
d'avoir un débat qui sera modéré, comme tout bon débat.
Oui, non, c'est une fonctionnalité qui est présente, qui peut être activée ou ne pas être activée. J'ai oublié de préciser qu'elle ne sera pas systématiquement activée. Oui. Ça permet, par exemple, aux bibliothèques universitaires ou pour un professeur qui a un compte, dans le cadre d'une animation pédagogique, de lancer D'accord. un débat, quel qu'il soit, par rapport à tel corpus ou tel autre corpus ou tel cours, et de pouvoir discuter en ligne. C'est-à-dire, on a pensé à ces questions de travail en ligne, télétravail des étudiants qui peuvent s'échanger des messages, qu'ils aient un endroit où ils puissent discuter justement de leur recherche, de leur requête par rapport à tel ou tel concept. Quand on est dans une démarche de rédaction de thèse, souvent on est amené à faire des échanges, et c'est un outil qui permet ça. C'est pas du tout l'idée de faire un débat, comme vous l'avez mentionné. Mais voilà,
c'est pas le colloque virtuel organisé.
C'est modéré pour éviter les dérapages. Ça sera modéré par le professeur concerné, parce qu'évidemment, quand on est dans une mailing list, on a toutes sortes de tentations.
Cela dit, c'est quand même bien l'idée de la multiplication des communautés de lecteurs. Mais ça, c'est un sujet qui est probablement commun aujourd'hui à l'université, aux bibliothèques et aux éditeurs. Alors, Claude Cherki, pourquoi un éditeur a-t-il pris le risque économique déjà, parce qu'on sait très bien qu'un développement de ce type, ça coûte de l'argent, de lancer ce développement, alors que globalement, je vais énoncer un lieu commun, vous me corrigerez bien évidemment, mais enfin, globalement, les éditeurs français semblent quand même encore majoritairement dans une position d'expectative vis-à-vis du numérique. Pourquoi en ligne et non pas sur CD-ROM, puisque ça pose un certain nombre de questions, et notamment celle du passage de la notion de collection au concept de service. Plusieurs questions.
Oui, alors j'avais préparé quelque chose, mais tout ça est tout à fait balayé par ce que vous venez de voir, parce que je crois que la réponse à cette question multiple, c'est ce que vous venez de voir. C'est quoi ça? C'est d'abord l'idée de ce qu'est un éditeur. Et un éditeur n'est pas forcément un intermédiaire entre un auteur et un imprimeur. Un éditeur, c'est un groupe de personnes qui, avec des gens de la maison ou à l'extérieur, donnent une valeur ajoutée à un manuscrit, donnent une valeur ajoutée à une œuvre. Dans le cas de... Bon, c'est cela, et on essayait de voir comment, avec un outil nouveau, nous pouvions donner une valeur ajoutée à l'œuvre de Barthes. Deuxièmement, le rôle d'un éditeur, c'est... la fidélité à l'égard d'un auteur dont on publie l'œuvre. Comment valoriser, faire mieux connaître ou donner une plus grande pérennité à l'œuvre d'un auteur. Nous avions avec Barthes un cas d'école formidable, dans la mesure où nous avions toute l'œuvre de Barthes chez nous, toute l'œuvre écrite de Barthes, que nous avions à disposition... la possibilité d'avoir les cours, que se posait le problème de l'édition des cours. Vrai problème dont on débat depuis 10 ans à l'intérieur de la maison. Comment passer de l'oral à l'écrit en sciences humaines? Or, il y a tout un trésor. On a une collection, d'ailleurs, que dirige Thierry Marchais, qui s'appelle Traces écrites, où on essaie de voir avec les auteurs ou leurs ayants droit comment on peut mettre à la portée du public les cours, les contributions orales d'un certain nombre de penseurs de ce siècle sans distordre leur pensée, parce que le passage de l'oral à l'écrit est une distorsion. Là, nous avions la possibilité de donner aux chercheurs, au public, au public assez large, parce que Barthes est un auteur public, est un auteur qui se vend, comme on dit chez nous. Ce n'est pas un auteur confidentiel. Donner la mesure de cette distorsion qui est introduite par le passage à l'œuvre écrite, de l'œuvre orale à l'écrit. Et c'est pour nous aussi une manière d'apprendre comment gérer ce passage. Je crois que ça, c'est les deux points essentiels. Valeur ajoutée, fidélité à l'auteur et troisième point, opportunité. D'autre part, dans l'opportunité, il y a le fait que Michel Sataldo, le frère de Roland Barthes, souhaitait que l'on aille de l'avant. Il a accepté que l'on, justement, fasse cette expérience, parce qu'il s'agit pour nous d'une expérience. Alors, bon, je crois que c'est ça, parce que les motivations des éditeurs ne sont pas simplement financières, ne sont pas simplement des motivations de rentabilité. Bien sûr, on est obligé de les avoir en tête, mais ce n'est pas que ça. C'est aussi une conception de notre travail, de notre mission, de notre rôle par rapport aux auteurs et par rapport au public. Il y avait un autre point, je crois aussi, qui faisait qu'au Seuil, on a été un peu plus sensible à cela, c'est que... très tôt, oui, vous le savez, puisque avec la BNF, on a eu un premier accord sur les problèmes de numérisation. Très tôt, nous nous sommes préoccupés des problèmes de numérisation, du sens que cela avait pour nous, éditeurs, de le passage de la forme papier à une forme numérique sur le réseau ou sur support fixe. On se posait tout la question, peut-être parce que j'ai une formation d'ingénieur et que tout ça ne m'était pas complètement étranger au départ. Donc je comprenais un peu ce qu'on me disait, un peu, pas trop, mais suffisamment pour penser avec les personnes de la maison qui travaillaient que nous avions un rôle à jouer là-dedans, qu'il ne fallait pas laisser d'autres opérateurs intervenir parce qu'ils n'avaient pas le rapport aux auteurs que nous avons, ils n'avaient pas l'histoire que nous avons dans le rapport aux auteurs, ils n'avaient pas aussi l'histoire que nous avons par rapport au public de ces auteurs. Donc là aussi, c'était un problème d'opportunité. On a fait plusieurs expériences, d'ailleurs. On a fait l'expérience que vous dites avec notre ami Arbon. Mais là, c'était dans une perspective d'expérience qui, pour moi, était plus complexe que l'aspect technique. Hein. C'était de montrer, puisque nous avons fait payer des droits, que le numérique sous droit papier, qui vient d'un produit papier, reste sous droit sous forme numérique, et que ces droits se calculaient, devaient se négocier, se discuter entre les parties, parce que je ne vous cache pas que nous avions eu quelques problèmes au début avec la BNF, mais avant votre arrivée, à une époque où les choses n'étaient pas aussi simples et les rapports aussi fluides qu'aujourd'hui. On a eu d'autres expériences en multimédia, puisque nous avons développé du multimédia. Je crois qu'on a été dans des secteurs qui n'avaient rien à voir avec les sciences humaines, qui était secteur de la... On a fait des CD-ROM sur l'astronomie, des CD-ROM sur les Glénans, le cours de navigation des Glénans, qui ont été des vrais succès, et on a appris des choses. On a appris des choses qui nous servent aujourd'hui. Hein. On a appris... ce sont les mêmes qui font... qui ont fait des CD-ROM pour savoir comment on fait de la navigation hauturière et qui s'occupent de Barthes aujourd'hui au Seuil. Donc, on a essayé depuis quelques années de changer dans une culture d'entreprise, parce que dans une maison d'édition, je crois qu'il faut se rappeler qu'il y a une très forte culture d'entreprise, de passer d'une culture strictement papier à une culture nouvelle, sans savoir ce qu'était cette culture nouvelle et sans savoir vers quoi elle aboutissait. Voilà. Alors, après... c'est vrai que nos expériences en numérique, donc en CD-ROM, ont été très rentables, bizarrement, très rentables. On a gagné beaucoup d'argent avec les CD-ROM. Je crois même qu'on est le seul éditeur à en avoir gagné. Hein. Le seul éditeur papier classique qui, ayant fait des CD-ROM, peut dire « j'ai vraiment gagné ma vie en faisant ça ». Donc je pense, mais ça c'est aussi une intuition, que devant ces marchés émergents que nous ne connaissons pas, que nous n'appréhendons pas, mais qui sont évidents, parce qu'il y a 70% des étudiants qui naviguent sur Internet, les bibliothèques universitaires sont aujourd'hui équipées, les scientifiques... Parce que là aussi, c'est mon expérience ancienne de chercheur dans des domaines qui n'ont rien à voir avec les sciences humaines m'a un petit peu aidé à prendre conscience. Aujourd'hui, mes collègues, ceux qui sont restés au CNRS en physique, sont toute la journée sur leur revue numérisée sur Internet et ils vivent le papier et le numérique de manière assez sans problème et assez complémentaire. Demain, les chercheurs en sciences humaines, des étudiants en sciences humaines qui n'en sont pas à ce stade, parce que la recherche en sciences humaines est souvent une recherche à partir de livres, tandis que la recherche en sciences exactes est une recherche à partir de périodiques. Donc la numérisation des périodiques est plus facile à faire, elle est plus séquencée, elle est plus organisée. D'autre part, les opérateurs sont des opérateurs internationaux, des grands groupes en général, des grands groupes internationaux, que ce soit Elsevier, Springer et tout, qui ont lancé des abonnements à forme multiple, un papier numérique. Donc là, en physique, en biologie, la question de savoir comment on gère le numérique, bon, demain, ça sera la même chose en sciences humaines. Donc la question pour nous était de savoir comment passer, parce que ce n'est pas la même chose que dans les sciences exactes, comment le faire. Voilà, c'est une expérience. Alors pourquoi ne pas faire de CD-ROM? Parce que il y a deux problèmes, hein, c'est pour les CD-ROM. Les CD-ROM, c'est plus facile, plus facile pour nous à conceptualiser dans la mesure où c'est un objet, un CD-ROM. C'est un objet comme un livre. Donc on peut le traiter comme un livre. On l'a fait et on s'est rendu compte pour aujourd'hui. Puis il se trouve que j'ai présidé la commission d'avance sur recette du CNC. Centre national du cinéma sur l'édition électronique pendant un temps infini et que j'ai vu comment les choses se passaient aussi. On l'a fait et puis on s'est rendu compte que les CD-ROM évoluaient globalement vers le jeu et le CD-ROM ludique, et que le problème de la distribution globale des CD-ROM allait se poser et qu'on ne savait pas pour les CD-ROM comment faire. Comment toucher les utilisateurs. Bon, ça, c'est le premier point. Le problème de la distribution est un problème essentiel. Là, avec le réseau, on vend un service qu'on aurait pu mettre éventuellement sous une autre forme. On vend un service, mais on est en contact directement avec les utilisateurs et qu'on ne dépend pas pour la distribution. On dépend de techniques et d'opérateurs avec lesquels nous travaillons, mais on ne dépend pas de la même manière du bon vouloir des distributeurs et de l'organisation de la distribution générale des CD-ROM dans le monde. Et ça, je crois que c'est un point qu'il faut... je ne sais pas si vous partagez mon point de vue, Valérie, mais c'est un point essentiel. On s'affranchit de cela. On reste maître avec les entreprises avec lesquelles nous travaillons de la distribution. Et je crois que ce point est important. Quant au financement, ce sont de très très gros financements potentiels, si j'ose dire. Si on va jusqu'au bout des projets, ce sont des millions qu'il faut investir, et des millions qu'il faut investir sur un marché dont on ne peut pas dire quelle est sa résonance économique. Et pour lequel on a beaucoup d'interrogations. J'en ai un peu plus que mes collaborateurs, qui sont beaucoup plus optimistes que moi, mais moi j'en ai beaucoup sur qu'est-ce que donne ce marché. Mais en même temps, notre métier aussi, c'est de prendre des risques. Bien sûr, il faut les mesurer. Je suis là pour les mesurer, moi. Mais il faut prendre des risques. Et le marché de l'édition, le métier d'éditeur, a toujours été un marché de l'offre. Ça n'a jamais été un marché de la demande. C'est-à-dire que la demande, elle est créée quand une offre est proposée. S'il n'y a pas d'offre, il n'y a pas de demande. S'il n'y a pas de livre, s'il n'y a pas d'auteur, il n'y a personne pour aller les acheter. Personne n'est venu nous voir pour nous dire « je voudrais un roman sur telle ou telle chose » ou « je voudrais que vous trouviez un philosophe qui parle de tel ou tel point ». Donc on est dans un métier de l'offre et qu'on va rester dans ce métier de l'offre. Alors maintenant, comment l'offre va s'articuler avec la demande, ça, et que le vrai problème, c'est l'articulation des deux moments. Hein. Il y avait quelqu'un pour qui j'avais une grande estime, qui était André Giraud, l'ancien ministre de je ne sais plus quoi, mais qui était administrateur du CEA, qui me disait il y a deux manières de se ruiner dans les technologies nouvelles, c'est d'être en retard sur les autres ou d'être en avance sur les autres. Mais la plus sûre, c'est d'être en avance sur les autres. Alors, il faut être suffisamment en avance, mais pas trop pour répondre à un besoin social, un besoin intellectuel, un besoin universitaire. Le problème, c'est que nous avons en France un retard formidable dans les aides à ces projets. Peut-être que nous avons un retard important parce qu'il n'y a pas suffisamment d'opérateurs qui proposent des projets de ce genre à la puissance publique. Mais aujourd'hui, on est confronté à deux problèmes. C'est une difficulté d'expertise. Et je vous le disais en aparté, j'ai suggéré au CNL de faire appel à un comité de consultatif fait de bibliothécaires compétents pour pouvoir expertiser ce genre de projet. Parce qu'on n'a pas d'experts pour pouvoir... Donc s'il n'y a pas d'experts, il n'y a pas d'aide publique. Hein. Au CNC, que j'ai bien connu dans une autre époque... C'est la même chose. La culture de l'aide publique pour l'édition numérique n'est pas une culture d'aide publique pour les projets universitaires ou para-universitaires. Donc on est confronté à ce problème de financement. Alors on a, de la part de la puissance publique en général et depuis tout le temps, de bonnes paroles sur « il faut faire, avançons, avançons, avançons ». Et quand on avance, on se heurte à une certaine incompréhension. Donc on travaille là-dessus pour surmonter ces problèmes et on va mais on ne les surmontera qu'en leur proposant des choses, en leur faisant une offre. On ne peut pas leur venir voir ce qui est de l'édition et l'édition numérique avec des projets papier en leur expliquant vaguement. Donc c'est pour ça qu'on a commencé à faire ça. L'autre point sur le problème de financement, c'est que si ça marche, si on va jusqu'au bout, je touche du bois, je suis un peu superstitieux, si on va jusqu'au bout, mais on ira jusqu'au bout, on aura créé une plateforme. Je ne sais pas si c'est le mot. Hein, une plateforme qui sera transposable sur autre chose. Moi, je suis aussi éditeur de Lacan. On est pour partie éditeur de Foucault avec Gallimard. On est éditeur de Genette. On est éditeur de beaucoup d'auteurs, je sais pas, d'auteurs de sciences humaines. On n'a pas toujours le fond complet de ces auteurs-là. Ils ne posent pas le même problème, parce que dans beaucoup de cas, c'est le fond écrit, simplement. Il n'y a pas de fond oral. Mais les moteurs de recherche qui sont développés, la méthodologie qui est développée, est transposable, elle s'affinera en même temps, hein, mais elle est transposable à d'autres secteurs des sciences humaines. Et si demain le seuil, je parle pour ma boutique, parce que quand même je dirige une boutique, si on arrive à développer ça, eh ben on aura une place qui sera incontournable, parce que cette manière de faire sera la nôtre et elle pourra être mise à disposition d'autres éditeurs. Alors c'est vrai qu'on deviendra distributeur de services, alors qu'on voulait éviter d'être distribué par d'autres, mais... voilà. Alors je ne sais pas si j'ai été clair. Donner en vrac un peu nos préoccupations.
Et vous terminez sur un paradoxe possible, effectivement. Un paradoxe possible qui, dans les institutions qui organisent la consultation, pose évidemment pas mal de questions. Alors vous parliez du fait que cette plateforme pourrait intéresser d'autres éditeurs, elle pourrait aussi intéresser probablement des institutions. Je mentionnais tout à l'heure le fait que les archives sonores dans ce pays sont considérables et encore très très peu exploitées. Il y a de quoi faire, mais on y reviendra peut-être. Pour l'instant, je voudrais faire réagir Jean-Didier Wagner, donc responsable scientifique du développement de la bibliothèque numérique de la Bibliothèque nationale de France. Comment tu réagis à tout ça ?
Je crois que c'est la preuve que le secteur des bibliothèques et le secteur de l'édition peuvent vivre ensemble. Et à un certain moment, en 1992, puisque en fait, paradoxalement, ce sont les bibliothèques qui ont commencé à numériser avant l'édition en France, il y avait une vision. La vision n'était pas encore assez claire. Les bibliothèques se lançaient dans une rétroconversion de leurs fonds numériques en mode image, c'est-à-dire en fac-similé, de la même manière qu'on vous a représenté les cours de Barthes, les cours manuscrits. Et le problème, c'était de savoir si la bibliothèque se lançait dans un travail éditorial. À la même époque, d'ailleurs, on nous demandait de numériser en mode texte la totalité de la bibliothèque. Alors quand on y songe un petit peu, sur Gallica, c'est-à-dire la bibliothèque du domaine public, il y a aujourd'hui 70 000 volumes, soit 21 millions de pages, représentant à peu près 20 à 25 000 auteurs. Imaginez maintenant de faire ça en mode texte, c'est-à-dire vous avez un Balzac, un Zola, un Rimbaud, un Verlaine, et pour établir chacune des éditions, il vous faut un comité scientifique. C'est-à-dire qu'on n'aurait jamais pu réaliser cette bibliothèque-là en mode texte. Aussi, il y a une répartition entre les deux secteurs. La bibliothèque va rétroconvertir le fonds du domaine public, va permettre ensuite au lecteur de naviguer à l'intérieur grâce à des tables des matières en mode texte dans lequel il va découvrir des connaissances, tandis que le monde de l'édition va établir avec la valeur ajoutée des universitaires qui travaillent avec eux les grandes éditions en mode texte. Et surtout, et là ce qui m'intéresse, je trouve très, très important dans ce projet, c'est que ce n'est pas uniquement un BART en mode texte, c'est-à-dire qu'il bénéficie d'une culture en fait de l'hypertexte, une culture à la fois informatique et à la fois comment pourrait-on dire philosophique de qu'est-ce que doit être une configuration textuelle. On a souvent pensé qu'on passait avec le numérique de l'âge du texte à l'hypertexte, du texte au corpus. Il y a beaucoup de projets en ce moment. Il y a le projet, par exemple, de reconstituer autour de Bouvard et Pécuchet toute la bibliothèque de Flaubert. On travaille à la Bibliothèque nationale en ce moment sur le rêve de Zola avec tous les états du manuscrit, depuis les notes de lecture, les personnages, etc. C'est reconstituer des réseaux. Et ce qui me paraît très intéressant dans le projet BART, c'est ça. C'est-à-dire que ça soit une plateforme et que ça ne soit pas sur CD-ROM, que ça ne soit pas clos, et que ça va constituer quelque chose d'énorme. Parce que, comme le rappelait Claude Cherki tout à l'heure, en fait, une grande partie de la modernité c'est écrit au seuil, et donc à partir de là on peut constituer quelque chose de très important. Et là il y aura autour de BART quelque chose aussi d'intéressant, c'est tous ces rapports avec la peinture, tous ces rapports avec la musique, et donc on peut imaginer ce que va devenir ensuite un tel projet. Donc ça ne pourrait jamais tenir sur un CD-ROM ni même un DVD. Quant aux bibliothèques, elles se sont réparties donc le travail entre des fonds patrimoniaux rétroconvertis, que ce soit sur Gallica ou bien sur les sites de la BNF, avec des éditeurs comme Le Seuil qui a signé une convention pour qu'on puisse lire aussi BART en mode image à la Bibliothèque nationale. Et surtout, tout un dispositif qui existe aussi à la bibliothèque dans la vôtre, c'est-à-dire tous les CD-ROM et toutes les revues en ligne dans lesquelles les lecteurs vont pouvoir rechercher des informations. En fait, il y a une synergie qui va se faire entre le patrimonial rétroconverti d'un côté et le secteur éditorial sur Internet ou sur CD-ROM de l'autre côté. Et je crois que là, on a trouvé véritablement un équilibre, et un équilibre au service du lecteur.
Vous êtes d'accord avec ça, Claude ?
Oui, moi je suis d'autant plus d'accord. C'est vrai, vous savez, l'idée de départ à la BNF, moi j'étais au comité de préfiguration de la BNF et on a eu la lettre de mission. C'était d'abord une bibliothèque virtuelle qu'on voulait faire. C'était une bibliothèque virtuelle alors que personne ne savait ce que ça pouvait être. Et comme il y avait la lettre de mission, il fallait qu'on trouve des moyens de faire. Et les projets de début, vous vous en souvenez, ont été quand même, comme vous le dites... ça a perturbé beaucoup de monde. Ça a été très, très compliqué parce qu'il a fallu qu'on fasse la pédagogie du droit d'auteur auprès d'un certain nombre d'opérateurs de la BNF pour leur expliquer que quand on avait des œuvres qui dépendaient du droit d'auteur, on ne pouvait pas les mettre en ligne pour les balancer à tout le monde, même en mode texte, sans quand même réfléchir à tout ça. Aujourd'hui, c'est vrai, moi je me réjouis, je me réjouis parce que vous connaissez ma vieille querelle avec les bibliothécaires sur le droit de prêt, donc je me réjouis qu'aujourd'hui, je me retrouve avec dans la complémentarité avec les bibliothèques et les bibliothécaires. Parce que, effectivement, on peut se partager le travail d'intervention auprès du public. On n'a pas les mêmes finalités, on n'a pas les mêmes objectifs. Et si on arrive à le faire, alors qu'au début, on était dans la confusion. On était dans la confusion, le travail d'éclaircissement a été long. Le travail d'éclaircissement chez vous, mais chez nous aussi, d'essayer de comprendre où on voulait aller. Ça ne vient pas de manière spontanée. La seule chose qui me préoccupe, c'est que je pense qu'il y a un travail à faire auprès des éditeurs énorme. Parce que sans vouloir dire que nous sommes des précurseurs, mais on est vraiment des précurseurs. là-dessus. Hein, donc c'est pas. Non, je suis modeste par nature, mais là-dessus, d'ailleurs, j'ai pas contribué à grand-chose et sauf à dire oui. Mais on a un travail énorme à faire auprès des éditeurs pour les convaincre qu'ils ont un rôle à jouer là-dedans. Mais on arrivera à les convaincre que si on leur propose un outil. L'idée quand même que nous avons, c'est de dire un jour, on discutera avec nos amis éditeurs pour voir comment on peut, sinon mutualiser cela, essayer de faire un travail sur des auteurs qui sont ailleurs, parce que on est une partie de la modernité, on n'est pas toute la modernité, malheureusement, mais une partie. Notre partie de la modernité chez Gallimard, quand même. Il y en a chez d'autres éditeurs. Donc, essayer de travailler ensemble. On a beaucoup de chemin et je pense qu'il faudra qu'on refasse une réunion dans 10 ans pour savoir où on en est. Hein. J'espère que nous aurons avancé et j'espère qu'on aura entraîné avec nous d'autres éditeurs. Moi, je voudrais quand même dire aussi une chose parce qu'il me paraît très important. Tout ça n'a pu être fait. Que parce qu'on a tissé des collaborations avec deux types d'intervenants, la société Quam et avec Claude Coste et les équipes d'universitaires. Sans eux, nous éditeurs, on n'était rien, on n'était pas capable de faire le travail. Alors que sur le texte, nous faisons le travail avec les auteurs. Là on n'était pas capable de faire le travail. On pouvait l'organiser, l'orienter et tout, mais le travail, il a été fait par des opérateurs extérieurs à nous. Et Claude, je vous appelle opérateur, hein, c'est pas grave. Hein, bon, d'opérateurs extérieurs à nous. C'est pour nous, éditeurs, c'est une grande nouveauté et c'est aussi un des obstacles qu'on risque d'avoir, un des obstacles culturels qu'on risque d'avoir pour le développement de ce type de projet, c'est que les éditeurs n'ont pas l'habitude de cela. Ils connaissent les imprimeurs, mais en dehors de cela, ils n'ont pas l'habitude d'organiser des travaux extérieurs. Et ça, c'est une difficulté que nous avons dû nous-mêmes surmonter.
C'est certainement un des aspects les plus, effectivement, les plus intéressants des évolutions en cours. Et je parlais des trois cercles, enfin de la multiplication des cercles de lecteurs qui, jusqu'à une date récente, restaient quand même essentiellement attachés à une institution ou à un lieu et qui, là, se retrouvent dans le même espace virtuel de fait. Avec aussi un certain nombre de questions, parce que la multiplication des communautés de lecteurs, chacune étant attachée à son sujet, peut aussi, ça a été dit par d'autres que moi, finir par distendre un petit peu le lien social. Mais c'est un autre débat peut-être. Bon. Il y a peut-être des questions dans la salle. Ces questions peuvent porter, bien sûr, sur ce que vous avez vu, des demandes d'approfondissement sur le site qui va être mis à votre disposition à la BPI dès mercredi, comme elles peuvent porter sur les idées qui ont été échangées depuis un peu plus d'une heure autour de cette table.
Oui, bonsoir. Moi, j'aurais sur ce débat qui est tout à fait important sur l'avenir des sciences humaines, j'aurais deux questions au vu de ce qui a été dit. La première porte sur le modèle économique qui est en train de se dégager ou qui se dégagera peut-être à la suite d'expériences de ce type et dont on a que l'on a fait qu'effleurer. Bon, le modèle général de l'évolution des sciences humaines a été formalisé par Danton. On voit bien ici comment on a l'édition papier et l'édition numérique, mais je n'ai pas très bien compris s'il s'agissait ici, alors d'une part d'un paiement à l'acte, d'un paiement par abonnement, dans la consultation, donc dans le retour sur investissement que l'éditeur va récupérer, ce qui pose la question évidemment au-delà de savoir si dans l'édition de sciences humaines numérisée, on va s'adresser en partie aux institutions, aux bibliothèques ou bien aux utilisateurs finaux. Autrement dit, si c'est un modèle B2B ou un modèle B2C qui ici se dessine. Donc ça, c'est une première question. La seconde question est cette fois d'ordre juridique. On a parlé de la transcription de notes professorales, donc d'enseignants, que ce soit Barthes, que ce soit Foucault, que ce soit Lacan. Et l'on sait que la retranscription de ces cours pose un certain nombre de problèmes juridiques qui ont d'ailleurs été évoqués récemment par des articles d'Emmanuel Pierra dans Livre Hebdo et qui concernent le droit de divulgation. Et là encore, il n'en a pas été question, me semble-t-il, et je voudrais savoir si, de ce point de vue, cette question, évidemment, a été réfléchie. Elle peut poser problème dans un certain nombre de cas, me semble-t-il, en tout cas.
Non, là, sur le dernier point, moi, je vous rassure totalement. Le droit de divulgation appartient à l'ayant droit, c'est-à-dire à l'héritier de Barthes. Hein. Mmh. Nous ne sommes pas une institution pirate qui prend des initiatives sur un corpus sur lequel il n'a pas de droit. Hein. Mmh. Donc nous avons un contrat, en bonne et due forme, avec Michel Salcedo, qui non seulement est l'ayant droit de Barthes, mais aussi le porteur de la valorisation de l'œuvre de Barthes. Donc sur ce plan-là, effectivement, et si quelqu'un d'autre se mettait à divulguer les cours de Barthes qui appartiennent, dont le contenu, je ne parle pas du cours matériel, mais dont le contenu appartient à son ayant droit, là, il y aurait piratage et pirat raison de poser la question. Ce n'est pas parce que vous possédez une cassette d'un cours de Foucault, de Barthes ou de Lacan, ou d'un séminaire de Lacan, que vous êtes propriétaire du contenu. Le contenu appartient aux ayants droit. Donc ce problème-là, il est basique pour nous. Hein. Quant au modèle économique, on va plutôt. Et je vous disais que le modèle économique, il n'est pas figé, parce qu'on va apprendre des choses. Mais on va plutôt vers l'abonnement, et l'abonnement par le biais des bibliothèques. Parce que les coûts d'abonnement seront tels que ça ne pourrait être que des abonnements pour une collectivité, et non pas pour des individus. Je crois que même un chercheur qui... vous voulez baisser les prix. Hein, mais ce que on peut dire, c'est que le modèle va s'affiner avec le temps. C'est que plus nous aurons... parce qu'il faut amortir les hébergements, il faut amortir les développements hein, techniques et tout. Mais au moment où la plateforme vivra... quand on passera à un autre auteur, les coûts d'ensemble baisseront, comme les coûts de distribution baissent quand vous avez un volume à distribuer plus large. Donc là, dans une perspective à long terme, on peut dire que ce genre de projet sera après accessible à des individus sur abonnement, plus accessible à des individus sur abonnement. Si un jour on arrive à mettre Foucault, si on arrive à mettre Lacan, si on arrive à mettre je sais pas, d'autres, on aura amorti des frais fixes de départ, de conception, qui nous permettront de baisser les prix d'abonnement. Parce que dans les prix d'abonnement, ce n'est pas les droits d'auteur hein, qui sont les plus élevés. Hein.
Et alors, dans le cas présent, concrètement, vous vous adressez avant tout aux bibliothèques, selon une formule d'abonnement.
Ben, je ne sais pas, Marie-France, vous pouvez peut-être répondre, parce que c'est vous qui gérez ça. La raison, c'est un problème de fond.
Oui, dans un premier temps, on va s'adresser aux institutions, bien sûr, parce que l'abonnement, d'abord... est un peu expérimental puisqu'on vise à mettre en ligne le premier cours, donc le Comment vivre ensemble, qui porte sur 14 heures. Ce que je voulais dire aussi, c'est que la partie éditoriale, donc tout ce qui est en amont au niveau de la recherche conceptuelle, du travail sur les fichiers, donc de segmentation dont on a parlé, est un travail très lourd au niveau éditorial. Et donc là, évidemment, non seulement il y a la technologie, il y a l'hébergement, la maintenance de l'ensemble, mais il y a aussi ce travail éditorial et c'est normal que les experts qui travaillent là-dessus soient rémunérés aussi à la hauteur du travail qui est fait. Et je rappelle, c'est un travail extrêmement précis, méticuleux, et donc ça prend énormément de temps. Donc c'est vrai que la consultation en ligne, c'est très bien, mais c'est aussi une consultation en accès payant, bien sûr.
D'autres questions. Je souligne quand même que on est là à un tournant. Et c'est pour ça que nous avons aussi placé cette soirée sous le signe éditeur bibliothécaire. Bon, on est à un tournant en ce sens que c'est un peu nouveau qu'un éditeur dise bah oui, mais bon. Je compte sur les institutions et les bibliothèques pour donner accès. De ce fait, ce dont vous parliez tout à l'heure, c'est-à-dire le soutien des pouvoirs publics, il peut être assuré indirectement, puisque les bibliothèques sont financées en grande partie sur fonds publics, sauf que leur économie doit également être revue et par les pouvoirs publics en question qui les financent, pour pouvoir prendre en compte des coûts qui sont quand même sans commune mesure avec le fait de mettre d'acheter trois ouvrages et de les mettre à disposition sur un rayonnage. Et bon, nous sommes complètement convaincu que s'il y a une fonction essentielle aujourd'hui de nos institutions, c'est précisément de donner accès aux produits que vous élaborez, comme celui qui nous est montré ce soir. Mais ça ne va pas non plus être si simple que ça, malheureusement. Je le crains.
je suis...
Oui, oui, bien sûr, oui, oui. Non, mais le problème de la nouvelle économie, si je puis dire, se pose pas seulement en France, hein, parce que quand vous voulez donner accès à des bases de données juridiques, économiques ou autres, dont l'abonnement va chercher dans les 25 000, 30 000 euros, les budgets grimpe assez vite.
Oui, je crois qu'on ne sera pas dans ces eaux-là, heureusement. Mais ce que je veux dire, c'est que vous avez parfaitement raison. Si l'économie documentaire ne change pas, ces projets ne changent pas en France et même aux États-Unis. Ces projets n'ont pas d'avenir. Hein. Si on ne repense pas ce qu'est l'économie documentaire, quoi, pour les universitaires et pour les étudiants, ces projets n'ont pas d'avenir. Mais bon, ça, oui. Je pense
que... On peut joindre nos efforts, en tout cas, pour leur assurer un avenir, parce que ça vaut le coup, je crois. Il y avait
juste une question. En fait, vous ne craignez pas d'être un petit peu dépassé en faisant appel à une technologie qui est un petit peu lente, alors que d'ici quelques années, il y a peut-être une autre technologie qui pourra aller chercher ces informations plus rapidement. C'est le temps que tout ça se mette en place.
Je peux répondre à cette question. Les fragments sonores que vous avez entendus pèsent quelques dizaines de cas. Ça vous donne l'idée du débit dont nous bénéficions ici. Je crois que il faut savoir que là, on est dans un réseau mutualisé et que ce n'est pas les conditions optimales de consultation aujourd'hui d'un réseau ADSL ou même d'un modem 56.6. Et vous pouvez vérifier chez vous, vous verrez que c'est beaucoup plus rapide que ce que vous avez vu là. Ce n'est pas lié à la technologie. Vous savez bien qu'Internet, c'est lié aussi à des conditions...
C'est plutôt à ce qui se passe quand on rentre les informations. Je ne pensais pas à la vitesse,
etc. Oui, tout à fait, aux pages d'accès, le temps de
télécharger. Non, chercher les informations dans les textes, les concepts, etc. La façon dont le travail est fait en amont par tous ces chercheurs, on imagine qu'effectivement, il faut beaucoup de gens, beaucoup de... Mais il y aura peut-être des logiciels qui feront ça dans 2-3 ans d'une façon plus...
Vous savez, on est dans un prototype fonctionnel. On a 70% des technologies développées. Ce n'est pas complètement optimisé. Faut revenir aussi sur cette idée-là. Et puis, faut savoir aussi que la question de la rapidité, ça sera certainement beaucoup plus rapide une fois qu'on aura un système optimisé, qu'on aura plus de contenu, qu'on aura des dictionnaires et des index beaucoup plus complets. Puis pour parler de ces questions de solutions techniques, nous, on est très disposés à vous écouter. Si vous en avez, on est preneurs.
Non, pas vraiment.
Est-ce qu'on peut, par rapport à ce qu'on a vu là, est-ce qu'on peut imaginer d'avoir à l'écran l'image du manuscrit, la transcription et l'écoute?
Oui, tout à fait. On peut afficher. Bon, comme je l'ai dit, là, on est vraiment à 70%. On n'a pas la totalité des fonctionnalités qui sont développées.
D'accord,
mais c'est... à terme, oui, l'idée, c'est ça. C'est premièrement, si on veut aller vraiment au bout de la démarche, c'est aussi la recherche contextuelle. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement sur les index des listes, des concepts ou full text, mais aussi définir des champs sémantiques par rapport aux concepts et avoir des indexations connexes avec des algorithmes qui moulinent derrière, faire des recherches booléennes, etc. Bon, tout ça, c'est, ça dépend aussi du modèle économique. C'est-à-dire que cette plateforme permet d'aller très loin, il y a toutes les possibilités, et surtout la question de la concomitance, il y a tout un back-office utilisateur qui sera utilisé. Alors, qu'est-ce qu'on entend par là? C'est la possibilité pour l'étudiant de poser des post-it, d'annoter, de mettre du surlinéaire sur le contenu, d'afficher de façon concomitante les différents médias, de les opposer. Bon, toutes ces fonctionnalités ne sont pas là aujourd'hui, mais si on allait jusqu'au bout de la démarche du prototype, on aurait terminé le projet, si je dois résumer, parce qu'il ne resterait plus que le contenu à traiter. Mais là, on est vraiment dans un modèle prototypal.
Et alors, quel dispositif de test vous envisagez en dehors de la BPI?
Alors, différentes universités, on va démarcher différentes universités à l'étranger, et puis différentes universités aussi en France, et puis on va essayer d'organiser aussi des rencontres avec des experts universitaires, leur donner des accès privatifs, qu'ils puissent tester le produit, entre guillemets. Parce que l'idée pour nous, pourquoi on met à disposition du public le prototype, c'est vraiment cette idée-là de pouvoir entendre aussi ce qui peut être demandé par rapport à ça et pouvoir intégrer peut-être dans la future offre commerciale ces demandes et intégrer des réponses supplémentaires. Parce qu'on ne peut pas avancer seul. Il faut, à un moment donné, pouvoir montrer ce qu'est l'offre, mais aussi voir, au niveau des tests utilisateurs, le confronter à des contextes d'utilisation.
Ça, c'est quand même une nouvelle façon d'envisager le métier d'éditeur, non? Parce que...
Nouvelle façon que je ne maîtrise pas totalement, hein. Je ne vous cache pas, mais il faut bien les technologies changent, les possibilités changent, il faut bien qu'on change aussi, sinon ça va être quoi le métier d'éditeur dans 20 ans? J'ai été très, très réservé quand, au changement du métier d'éditeur quand on me parlait des petits bouquins, les bouquins qu'on mettait sur, vous voyez, ces trucs-là, les e-books, là. Alors là, j'étais intarissable là-dessus, sur l'absence totale d'intérêt pour les lecteurs de ce genre de choses en littérature. Mais là, on est sur autre chose. On doit apprendre. Nous, on est là pour apprendre. Moi, je voudrais dire une chose sur les technologies. C'est vrai que les technologies vont changer. Mais le plus difficile pour le métier d'éditeur, c'est de changer la culture, les méthodes de travail et la finalité de son métier. Et je dirais que même si les technologies changent, ce qui aura été fait aujourd'hui sera transposable sur les technologies nouvelles, parce que le travail que Claude Coste a fait avec son équipe, de toute façon, il restera valable avec le changement des technologies. Et d'autre part, dans ce secteur-là, si on nous dit attendez que les technologies soient stabilisées, on ne fait rien, parce que on ne sait pas quand elles vont se stabiliser, on ne sait pas si elles se stabiliseront un jour. Alors, il faut faire, il faut avancer, et après, on réadapte, comme on l'a fait parfois sur des CD-ROM. CD-ROM, on les a fait à un moment donné du développement des CD-ROM avec des capacités de machine qui étaient données, puis les capacités de machine sont autres, ben, il faut changer et on réadapte. On réadapte les produits en fonction de l'évolution de la technologie. Là-dessus.
Il y a une demande là, et puis après ici.
Oui, je voulais poser deux questions. Une question pour Valérie Granchet. C'était de nous expliquer un peu ce que ça veut dire « the English version », quelle est l'étendue de « English version », puisque je vois que c'est un...
Oui.
Je crois que l'avenir, malheureusement peut-être, c'est peut-être dans le monde anglophone et ailleurs, bien sûr.
Tout à fait. Alors, si on peut activer le vidéoprojecteur pour montrer ce que c'est exactement. Ouais, merci. En fait, la version anglaise, aujourd'hui, on est parti du principe... Enfin, c'est pas, on est parti du principe. On a constaté qu'il y a deux catégories de personnes dans une université, par exemple, américaine ou anglaise ou canadienne. C'est que d'un côté, vous avez les prescripteurs qui sont capables d'étudier Barthes dans la langue d'origine, c'est-à-dire en français, ils ne vont pas étudier Barthes en anglais. Puis de l'autre, il y a ceux qui vont acheter les abonnements. Et il faut pouvoir montrer ce que c'est à ces fameux acheteurs. Donc la version anglaise consiste à traduire pour l'instant la totalité de la partie publique. Vous voyez que le texte, l'objet du site est en anglais, que de la même façon les fonctions, enfin toutes les rubriques ici sont traduites en anglais. Et si vous passez dans la partie abonnés, naturellement je vais retomber dans le français parce qu'il a gardé dans son cache mon log. Voilà, donc, il faudrait que je le relance. Il nettoie. Je vais vider le cache. On va commencer par ça. Naturellement, ça immobilise le poste. Je vais essayer de revenir derrière. Voilà. Ben non, rien n'y fait. Bon. Alors.
Avec un maigre aperçu de ce qui attend. Oui,
voilà, voilà. Cherche. Bon, pour parler de la version anglaise, c'est tous les textes de présentation, tous les éléments d'interface, tout ce qui ne traite pas du contenu qui est en anglais. Ensuite, vous avez, dès que vous rentrez dans le corpus, c'est en français. Donc, je ne vais pas vous dérouler la totalité du site. Le principe est très simple. Par contre, cette plateforme permet aussi une couche supplémentaire, mais là aussi ça dépend du modèle économique. C'est-à-dire, évidemment, si on veut aller au bout de la démarche, on peut faire des requêtes en anglais et avoir des réponses en français. Parce que justement, avec les outils de recherche intelligents, c'est des systèmes vectoriels qui vous permettent de faire des dictionnaires qui s'indexent l'un à l'autre dans des différentes versions linguistiques. Donc, on a énormément de possibilités et de perspectives, mais ce qui conditionne l'avancée, c'est toujours le contexte économique qui est autour. Nous, notre but, c'est d'aller le plus loin, évidemment.
Mais il va de soi que le texte de Barthes n'est pas traduit en anglais.
Non, voilà, hein, pas du voilà. tout. Vous aurez éventuellement la possibilité de questionner en anglais pour des réponses françaises.
Deuxième question.
Oui, la deuxième question.
La deuxième question, c'était, puisqu'on reste avec la question des langues, c'est de poser une question à Claude Coste.
Pardon.
C'est de lui demander quelles a été ou quelles ont été les réactions des étudiants lorsqu'ils ont essayé de vous aider avec un texte qui, je ne dis pas rébarbatif, mais avec un vocabulaire grec difficile. Quelle a été la réaction des étudiants?
Pour ce qui est la lecture du texte, d'une part, et pour ce qui est du travail de transcription et pas d'indexation, mais de codage. Hein. Les étudiants ont eu entre les mains le texte que j'avais déjà moi-même transcrit, donc les notes de cours, et nous avons fait le choix éditorial de translittérer les mots grecs. Bon, c'est une décision qu'on a prise pour des raisons évidentes, c'est que la maîtrise du grec dans la langue est tellement réduite de nos jours qu'on a pensé qu'il était plus pédagogique, plus grand public, au bon sens du terme, de translittérer les mots grecs. Donc il n'y avait pas déjà le déchiffrement qui était lié au caractère grec. Et les étudiants ont eu entre les mains une édition qui était annotée, l'édition avec un appareil critique que de l'édition donc du livre. Hein. Donc ça a enlevé ce type de difficultés. Alors maintenant, les retours que j'ai pu avoir sur l'ensemble des étudiants et des lecteurs, amis ou qui ont lu le cours est plutôt positif. C'est un prototype. Ce prototype sera consulté à la BPI et à l'université de Caen, enfin dans la bibliothèque universitaire de Caen. Bon. Ça pourrait être ailleurs. On est vraiment très ouvert à des critiques. Vous voyez, on n'attend pas des compliments, je veux dire, à quelque niveau du travail que ce soit. Ce qu'on veut, c'est avoir un retour, parce que si ce projet, une fois qu'on aura fait joujou, bah, c'est amusant au début, hein, c'est émouvant, mais si ce n'est pas intéressant, il faut qu'on le sache, parce que j'imagine que vous n'allez pas vous lancer comme ça à l'aveuglette dans une entreprise aussi coûteuse. Notre crainte était de donner un outil, effectivement, comme vous le disiez, rébarbatif, les phrases ne sont pas entièrement rédigées, et le retour est un retour positif pour l'instant. Un retour positif à quelques niveaux de lecture que ce soit. Bon, dernièrement, j'ai une conversation téléphonique avec un étudiant qui me disait « j'ai sauté les pages ». Il y avait des cours qui ne m'intéressaient pas, des traits qui ne m'intéressaient pas. Le cours est divisé en traits. L'ensemble des réactions de tous les lecteurs, quelle que soit leur place dans le monde universitaire, ça a été que c'était extraordinairement stimulant et que ça donnait envie. J'ai même un collègue qui m'a envoyé un mail en me disant « ça donne envie de faire des cours ». Vous vous rendez compte, hein? Alors, vous me direz, il faudra voir la réaction des étudiants, est-ce que ça donne envie d'en recevoir, hein? Ça, c'est une autre affaire. Mais voilà. Mais pour l'instant, le retour était plutôt positif.
Hein. Voilà. Il y a une question encore devant.
Monsieur Claude Cherki a développé avec beaucoup de conscience la nécessité pour un éditeur d'être à la fois dans une nouvelle culture, de développer des nouvelles méthodes de travail et aussi d'avoir conscience de sa finalité. Est-ce que toutes ces consciences ajoutées ne transforment-elles pas elles-mêmes le travail d'éditeur dans la mesure où il passe par un opérateur qui est extérieur à lui et de ce fait il se décisit un peu, paradoxalement, de sa nature d'éditeur pour devenir un distributeur.
Non, je pense pas. Mais on est déjà distributeur. Ouais, moi, je distribue des livres, je distribue les miens, puis je distribue les livres des autres. Donc, je suis déjà distributeur. Ce métier de distributeur, il fait partie de notre métier d'éditeur. On est des... Et puis, travailler avec des opérateurs extérieurs, on le fait déjà. Hein. Vous savez, on n'imprime pas. On ne fait pas la composition nous-mêmes, on a des opérateurs extérieurs. Ce sont des opérateurs extérieurs qui sont, je dirais, maintenant d'une grande banalité pour nous. Hein. Là, on se retrouve avec des opérateurs extérieurs qui sont des partenaires. Hein. Donc c'est vrai que là, il faut apprendre à gérer des partenaires. Mais c'est eux qu'il faut interroger pour savoir quel rôle nous jouons là-dedans, savoir si on est utile ou pas. Et pas simplement parce qu'on possède les droits, mais si on apporte quelque chose de la conception d'ensemble, du rapport au lecteur, aux lecteurs ou aux utilisateurs, à l'articulation entre les universitaires qu'on connaît un peu, parce qu'on travaille avec eux comme éditeurs, avec les gens qui nous apportent l'outil technique ou qui nous aident à développer l'outil technique, c'est qu'il faut interroger. Moi, j'ai pas de un éditeur, c'est un intermédiaire. Hein. C'est un intermédiaire qui essaie, dans sa médiation, d'apporter quelque chose en plus. Hein. C'est comme ça que je conçois. Est-ce qu'on apporte quelque chose en plus dans notre médiation entre les universitaires qui font le travail intellectuel et les opérateurs techniques qui nous aident à gérer une technique qu'on ne connaît pas? Mais moi, vous savez, je ne connais pas plus l'imprimerie et la composition, et pourtant, je pense que je peux être éditeur. Donc, c'est eux qu'il faut interroger. Mais je mettrai quand même en garde tout projet, quel qu'il soit, mettrait en face à face, sans un opérateur habitué à la médiation, un groupe universitaire, même s'il possède les droits, hein, avec un opérateur technique. Hein. Je crois qu'on a besoin d'intermédiaires et que nous sommes ces intermédiaires.
Oui, ce que je pouvais ajouter, c'est que bon, il y a une équipe d'universitaires dirigée par Éric Marty, et au seuil, il y avait par exemple le directeur de collection qui est Thierry Marchès, et qui a joué son rôle d'éditeur aussi, qui donnait son avis sur la réflexion que nous avons eue sur. C'est une réflexion collective. Hein, la notation que j'ai faite, bon, j'en prends la responsabilité, mais elle a été pensée collectivement, si vous voulez. Par exemple, je vous parlais de l'exemple du grec, savoir si nous allions ou non translittérer les termes grecs, c'est une décision qui a été débattue assez longuement. On a eu une très longue discussion pour savoir ce qu'on allait faire. Il y avait donc les universitaires. Thierry Marchès, donc, était éditeur au seuil, directeur de collection, et on a pris une décision. À l'issue d'une réunion, on a essayé de peser le pour et le contre. Il y avait un travail d'éditeur qui venait du seuil lui-même, si vous voulez, au sens intellectuel, je veux dire, au sens d'éditeur. Hein. Ce n'est pas simplement un prestataire de service. Vous n'avez pas simplement... Oui. Voilà. Non, non.
Nous, on le sait qu'on n'est pas prestataire de service. Hein, donc, voilà.
Je voudrais poser une question à Claude Coste et peut-être aussi à Jean-Didier Wagner. Mais tout d'abord à Claude Coste, finalement, vous avez... Je suis là. Vous avez contribué à l'édition du cours au Collège de France sous la forme l'édition papier et à ce travail-là. Est-ce que finalement, ce travail que vous avez réalisé sur, sous une forme multimédia vous a fait percevoir, en tant que donc, lecteur, cette fois-ci, l'œuvre de Barthes d'une façon nouvelle? C'est-à-dire, finalement, le média vous a-t-il... l'introduction de cette nouvelle forme d'interrogation de l'œuvre et donc du fond, au niveau à la fois effectivement sémantique, mais également au plan conceptuel, ce nouveau mode de travail a-t-il modifié votre perception de l'œuvre de Roland Barthes? Parce que finalement, c'est ça qui est important, au-delà des questions de stratégie et d'innovation qui sont effectivement importantes, oui, mais qui ne se justifient qu'en termes d'innovation intellectuelle.
Oui. Alors, tout dépend de ce qu'on entend par modifier la perception. Je n'ai pas découvert un Barthes complètement différent, vous l'imaginez bien, avec le multimédia. Bon, mais là, vous l'avez vu, il y a la voix, il y a le manuscrit et il y a la transcription des deux, et du texte oral et des notes. Ça implique un travail qu'on ne pouvait pas faire autrefois, qui était précisément de comparer tous les modes d'expression. Hein. On peut imaginer ce genre de travail. Et dans le catalogue de l'exposition qui va commencer dans 2 jours, que j'ai feuilleté, enfin, qui est déjà dans le commerce d'ailleurs, vous avez toutes des notes de Barthes concernant la voix, par exemple. Hein, c'est un journal, je n'ai pas en mémoire le titre de ces pages de journal, où il réfléchit sur la voix. Si vous savez à quel point la voix est capitale chez Barthes, on le sait tous, hein, ben, là maintenant nous avons la possibilité de travailler sur sa propre voix à lui, par exemple. Hein, et je crois que ce n'est pas absurde que de faire, c'est-à-dire que tout le monde va faire ça systématiquement, le sujet s'épuiserait. Mais on peut faire un travail sur le passage de l'un à l'autre. Et pour prendre une idée barthésienne, la notion d'hystérie, vous savez, c'est la théâtralisation de soi, l'hystérie, hein, cette espèce d'enflure d'emphase qu'on peut avoir, ce que Sartre aurait appelé la mauvaise foi, si vous voulez. Hein. Bon, ben, cette hystérie, on pourra... Et Barthes avait très, très peur de cette hystérie, il avait très peur de se théâtraliser. Hein. Et on pourra étudier cette hystérie dans son propre travail, si vous voulez. Hein. Je crois qu'on peut faire ça. Et maintenant, autre avantage du média, du multimédia, bon, c'est... Tous les chercheurs qui travaillent sur Barthes ne savent jamais très bien où sont les phrases. Tu te souviens où Barthes... Vous savez où Barthes emploie le mot sémioclastie, par exemple? Ben, c'est pas dans Mythologie. Alors, on le cherche et on ne sait plus où c'est, parce que Barthes, répétant beaucoup, reprenant, variant toujours les mêmes phrases, on a beaucoup de mal à identifier la provenance d'une phrase. D'autant plus qu'il faudrait faire un travail aussi sur les index chez Barthes. Les index de Barthes, on se demande s'ils ne sont pas là pour noyer son lecteur. Un index, il est très intéressant parce qu'il cache des choses, il ne révèle jamais les mots-clés, donc on ne trouve jamais ce qu'on cherche, et cet outil-là permet très pratiquement de se promener dans le texte de façon beaucoup plus rapide et de trouver ce qu'on cherche. Mais aux deux bouts de la chaîne, hein, d'un côté c'est pratique, et de l'autre, ça permet par la multiplication des supports et leur comparaison, tout simplement.
Bien, mais à moins qu'il y ait une dernière question, je pense qu'on va pouvoir s'en tenir là, d'autant que Anne-Sophie Chazot m'a volé la question que je voulais poser pour conclure. Et je voudrais évidemment remercier nos invités et donner rendez-vous à tout le monde dès après-demain, à la fois à l'exposition et autour des postes de mise à disposition donc du prototype dans la bibliothèque publique d'information. Merci.